Je tiens Apollinaire pour le dernier poète sensible. Maintenant, il y a une chose qui m'a toujours lu. Il paraît qu'il composait ses vers en faisant ta 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 ta. Je n'en reviens pas. Ta 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 ta.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain.
Ta 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 ta, c'est Léoto qui disait cela d'Apollinaire. Apollinaire était une figure incontournable du Paris littéraire et artistique du début du XXe siècle. C'était un homme public, convoité. C'était un homme époque, comme je vous le disais la semaine dernière. Il était l'ami des peintres et un ardent défenseur de l'art moderne. Picasso disait de lui, par exemple, qu'il avait un sixième sens. Duchamp, lui, soulignait son indifférence au formalisme. Apollinaire a ouvert la voie à la poésie moderne. Quand la Première Guerre mondiale éclate, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitski, alias Guillaume Apollinaire, apatride, sujet russe polonais, décide de s'engager. Mais en vérité, c'est son œuvre qui l'engage. Il n'est pas un poète jeté dans la guerre, mais un poète en guerre. Il voit le pire et il écrit des poèmes d'amour à des femmes lointaines, imaginées, fantasmées. Lou, Madeleine, ce sont ses muses. C'est grâce à elle qu'il survit, c'est l'amour qui le sauve, jusqu'au jour où il recevra un éclat d'obus à la tempe alors qu'il était en train de lire dans une tranchée. C'est la guerre qui a gagné. C'est avec Laurence Campa que nous allons passer cette heure. Laurence Campa a écrit une biographie d'Apollinaire remarquable, un monde plus qu'un livre, le monde d'Apollinaire. En 1914, avant que Apollinaire parte à la guerre, quelle place il a dans la vie parisienne ?
Il a trouvé une forme de stabilité. Il est journaliste, il est critique d'art, il est directeur de revue. Et puis, il a inventé récemment une nouvelle forme poétique qui ne s'appelle pas encore calligramme, mais idéogramme lyrique, qui sont des poèmes qui sont aussi des dessins, d'une certaine manière. Et donc, une forme radicalement nouvelle qui fait beaucoup jaser, en fait.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Et bien, on ne comprend pas, surtout. En fait, l'invention véritablement, ce qu'Apollinaire a en tête, c'est de pouvoir lier intimement le visuel, l'auditif, le trait et la lettre. Le poème ne représente pas ce qui est dit, mais est une forme plastique. D'ailleurs, il songeait d'abord à appeler son premier recueil d'idéogrammes lyriques « Et moi aussi, je suis peintre hein », l'allusion à Vinci. Parce que, du coup, le geste d'écriture était un geste qui est à la fois poétique et plastique. Et c'était la possibilité de tout saisir en même temps, d'avoir une perception simultanée, justement, du poème. Ce qui est très intéressant aussi dans cette invention, c'est qu'on peut commencer la lecture à différents endroits et que chaque lecture, du coup, renouvelle le mouvement, le sens et le rythme du poème.
Et tout ça, c'est nouveau, totalement nouveau.
Ça change vraiment la perception de la poésie et puis ça décentre aussi le poème de l'aspect uniquement auditif, sonore, pour le placer plutôt du côté du visuel.
Donc ça, c'est... il commence à travailler dans ce sens-là avant la guerre.
Oui. Alcool a quand même si c'était, quelques centaines d'exemplaires, a quand même marqué les esprits, du moins dans les milieux littéraires. Le grand public le connaît plutôt comme critique d'art et défenseur des cubistes. Et puis surtout, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent à Paris et qui viennent justement pour le rencontrer, comme des Chirico, qui peint son portrait, ce fameux portrait prémonitoire qu'on connaît, où on voit un portrait très étrange, où on voit la silhouette, le profil en ombre chinoise d'Apollinaire dans un arrière-plan du tableau, avec un cercle justement à la tempe gauche, et qui va devenir portrait prémonitoire en raison de la suite de l'histoire.
L'adieu. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne, et morte souvient-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Jusqu'à 21h, dans l'heure des rêveurs, Apollinaire, un poète en guerre avec Laurence Campa, et c'est bien sûr sur France Inter.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents, entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être, 15 heures par jour, le corps on laisse au visage un teint de cendre. Oui notre monsieur, oui notre bon maître.
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Au centre de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient plus naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêtres, oui notre monsieur. Demandez-vous belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Il était un vantard, alors quand il se vantait trop, on le laissait tomber.
Blaise Cendrars.
Il faisait une revue, alors de temps en temps, il vous demandait un poème pour sa revue, parce qu'il manquait un peu de copie. Puis un beau jour, je lui ai dit, écoute mon vieux, qu'est-ce que tu attends? Va donc t'inscrire maintenant, il y a la guerre. On demande des engagés volontaires. Alors, il a fait un tas d'histoires, un tas de chichis. Il a tout de même fallu qu'il s'engage un beau jour. Puis est arrivée une histoire d'amour qui a fait que son engagement s'est précipité et il en est mort.
Quand est-ce qu'il décide de s'engager, Apollinaire?
Tout de suite. D'ailleurs, la mobilisation générale est décrétée le 1er août. Le 2 août est le premier jour de la mobilisation générale. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Dès le départ, hein, en plus, il y a une loi qui date des premiers jours de la guerre, qui permet aux étrangers de voir leur naturalisation accélérée s'ils s'engagent dans l'armée française. Donc, ils demandent tout de suite, comme Cendrars d'ailleurs, la naturalisation et l'engagement. Mais il se trouve que les autorités militaires sont totalement débordées par les demandes, il faut qu'ils attendent. Et donc Apollinaire demande à s'engager parce que il est français de cœur, comme c'est on dit. Il a écrit en français, il a choisi la langue française, il vit en France, il vit à Paris, même s'il est entouré de gens de toutes origines.
C'est évident.
Il y a une forme d'évidence, par orgueil viril aussi très probablement. Il pense aussi à tous les écrivains français qui ont pu porter les armes. Quand il pense à la guerre, il va penser à d'Aubigny, il va penser à Vigny, à Laclos qui était artilleur aussi. Il va penser à tous ceux qui se sont battus, qui ont porté les armes. Une forme de noblesse. Donc on peut être un homme de plume et d'épée pour lui.
Un poète soldat, oui, un soldat poète.
Exactement, exactement. Et prendre sa responsabilité du fardeau, si je puis dire.
Mais il s'engage vraiment, c'est ça que vous dites. C'est ça qui est formidable.
C'est-à-dire qu'en fait, oui, je crois qu'il faut prendre le mot engagement au sens fort du terme. C'est s'engager, engager sa personne, et il engage son œuvre aussi. C'est-à-dire qu'il sait qu'à partir de là, il va être contraint, il va être au service de quelque chose, et que sa poésie, son statut d'écrivain, sa personnalité de poète, donc il accepte de renoncer à quelque chose. Et en même temps, je ne voudrais pas en faire un héroïsme à rebours, Il y a quand même l'union sacrée, il y a quand même très peu de gens qui ont pensé que la cause n'était pas bonne.
À la fois, c'est un beau geste, c'est un vrai engagement, un engagement total.
Une forme de panache.
Oui. Une forme de panache, et qu'en même temps, cet engagement-là, il était quasiment partagé par tous.
Oui, c'est ça. Oui. Et c'est aussi, ça fait partie des motivations, c'est-à-dire qu'il ne se sentait pas de rester à l'écart. Il faut se remettre aussi dans le contexte, les milieux littéraires et artistiques sont dispersés, le pays est en guerre, l'intégrité du territoire national est menacée. Et il ne se voit pas, de toute façon, être à l'écart de l'action collective. Les étrangers, quels qu'ils soient, et même si lui, plus ou moins apatride, d'origine russe, né en Italie, donc plutôt du côté des Alliés, on va dire, pour aller vite, n'avait pas à craindre une expulsion immédiate, en tout cas. Il n'était quand même pas, il n'avait pas de statut, il n'avait pas de position.
Apatride, il était ?
Alors, officiellement, il avait un passeport, pas un passeport, mais une sorte de, comment dire, de carte d'identité où était indiqué sujet russe polonais. Mais bon, il n'était pas français, en tout cas. Donc, de toute façon, il fallait aussi se protéger et se donner une légitimité. Pourquoi on était là ? Et si vous n'étiez pas sur le front, qu'est-ce que vous faisiez là ?
Tout ça peut expliquer aussi son engagement, c'est-à-dire à la fois le panache, le geste, cet héroïsme, mais en même temps héroïsme partagé par tous, que vous le disiez, plus son statut d'étranger qui lui a été renvoyé en pleine figure 2 ans avant dans cette histoire de statuette. Tout ça peut expliquer le fait de cet engagement et l'absence d'amour, j'allais dire. Et le fait que pas de femme à aimer...
Que faire d'autre ?
Que faire d'autre ? En 1914, quand la guerre éclate, Apollinaire est seule. Marie-Laurencin l'a quitté, fatigué de ses infidélités et de ses façons de faire. Il décide donc de s'engager et dépose sa demande 2 jours après la déclaration de guerre. Mais elle est repoussée par les autorités militaires complètement débordées. Apollinaire se retrouve donc désœuvré. Dans Paris, ses amis sont partis, Derain, Léger, Braque sont mobilisés. Apollinaire part donc à Nice sur l'invitation d'une connaissance et c'est là qu'il rencontrera, à la fin du mois de septembre, dans un restaurant, la comtesse Louise de Coligny-Châtillon, dont il va tomber fou amoureux. C'est la fameuse Lou des poèmes à Lou. Il est séduit par sa liberté et la vie de plaisir qu'elle mène. Il se déclare le lendemain de leur rencontre. Il la courtise, elle marivaude. Elle a déjà un amant artilleur qu'elle appelle Toutou. Laurence Campa.
Il essaie de la séduire, il lui envoie des poèmes, il lui envoie des lettres. Elle le prévient tout de suite qu'elle ne l'aimera jamais, que de toute façon elle a d'autres chats à fouetter, d'autres amants à aimer. Mais lui, il lui tient bon pendant tout un temps en tout cas. Et il tombe amoureux d'elle comme il entre en guerre. Lou est indissociable de la guerre, il ne l'aurait jamais rencontrée sans la guerre. C'est une femme donc qui est issue d'une très grande aristocratie. Et il ne veut pas démériter.
Il ne veut pas démériter et en même temps, cette femme lui dit « moi, je t'aimerai jamais ». Et c'est pas grave, il continue sa guerre.
Ah si, c'est grave, c'est extrêmement grave.
C'est grave, non mais...
il est foncièrement malheureux, cet amour à sens unique, mais il espère que ses lettres, justement, vont la convaincre.
Et puis il part à la guerre.
Et puis voyant que ça n'aboutit pas et que donc la guerre s'enlise, que le front se stabilise, que on a perdu dans les premiers mois de la guerre pratiquement autant d'hommes que tout le reste de la guerre, c'était une hécatombe totale. Du coup, les autorités militaires sont moins regardantes et donc il redemande son engagement et là ça marche. Et il se retrouve artilleur, mais simple soldat, à Nîmes, au début décembre. Et là, dès le lendemain, il voit Lou devant les portes de la caserne, devant les grilles. Parce qu'évidemment, ce qui l'intéresse, elle, c'est l'aventure. C'est quand les choses ne sont pas faciles, quand elles sont originales, quand il y a de l'interdit, du piquant. Et donc, elle arrive et elle se donne à lui. Et là, il découvre une femme qui aime sans entrave. C'est-à-dire une femme, une libertine, une libérée. Donc il y a quelque chose de totalement flamboyant, d'amoral justement, mais qui est d'autant plus intense et touchant que ça ne peut pas durer. Alors après, il se berce d'illusions, alors elle repart. Elle reviendra jamais d'ailleurs. Elle n'a aucune intention, elle mène une vie mondaine, elle prend des drogues, elle fume de l'opium, etc. Elle n'a aucune envie d'aller s'enterrer à Nîmes, dans cette ville huguenote, comme dit Apollinaire, justement, un peu rigide. Donc il se rend compte finalement qu'elle bon, ne viendra jamais. Et puis il finit par se porter volontaire pour aller au front, en avril 1915. Mais il va continuer à écrire à Lou. Et on va voir que progressivement, en fait, ces lettres sont plutôt de l'ordre du jeu, de la complicité, et puis d'avoir une amie à qui parler. Et ne pas être simplement un soldat faisant son travail, isolé des autres, d'avoir une femme à laquelle on puisse penser, qu'on puisse imaginer.
Même s'il savait que...
Ah, mais il ne se passerait plus rien, il le savait parfaitement.
Mais cette femme, l'image de cette femme, la présence de cette femme...
L'aide à vivre et à continuer à être poète, parce qu'il a quelqu'un à qui parler.
Est-ce que vous pouvez me lire quelques... Un ou deux poèmes à Lou. On va entendre l'amoureux, on va entendre le poète, et puis aussi on va entendre le soldat, l'homme qui découvre le front, qui découvre la guerre.
Il y a justement un poème de Nîmes, qui est un poème du moment de l'amour, où justement Lou est très proche. Et donc là, le poème est un poème d'un homme qui ne connaît pas encore le front, d'un soldat qui est au dépôt, et d'un poète qui est encore confiant et qui est amoureux. Je pense à toi, mon loup, ton cœur est ma caserne, mes sens sont tes chevaux, ton souvenir est ma luzerne. Le ciel est plein ce soir de sabres d'éperons, les canonniers s'en vont dans l'ombre lourds et prompts. Mais près de moi, je vois sans cesse ton image, ta bouche et la blessure ardente du courage. Nos fanfares éclatent dans la nuit comme ta voix. Quand je suis à cheval, tu trottes près de moi. Nos 75 sont gracieux comme ton corps, et tes cheveux sont fauves comme le feu d'un obus qui éclate au nord. Je t'aime, tes mains et mes souvenirs font sonner à toute heure une heureuse fanfare. Des soleils tour à tour se prennent à hennir. Nous sommes les bas-flancs sur qui ruent les étoiles. Très audacieux de rapprocher les 75, qui sont donc les canons, qui sont l'orgueil de l'artillerie de campagne française, avec le corps de Lou, donc très érotique, très audacieux, et puis très fulgurant. Quand il arrive sur le front, il sait que Lou est perdu à jamais. Ce qui est absolument fascinant dans ce poème qui est écrit le 6 avril 1915, il n'est pas sur la ligne de feu, il arrive un petit peu en arrière, mais il comprend tout de suite. Il comprend tout ce qui se passe, il perçoit ce qu'il y a dans les regards des fantassins qui reviennent de première ligne, il entend, il sent, il touche, tous ses sens sont en éveil, et il essaie à la fois de la rassurer, il comprend aussi tout de suite qu'il a basculé dans un autre monde et que c'est sans retour. Et au fond, il rassemble son courage et il écrit parce que c'est là qu'il est, il est lui.
Mourmelon le Grand, 6 avril 1915. Ma Lou, je coucherai ce soir dans les tranchées qui près de nos canons ont été piochées. C'est à 12 kilomètres d'ici que sont ces trous où dans mon manteau, couleur d'horizon, je descendrai tandis qu'éclatent les marmites pour y vivre parmi nos soldats troglodytes. Le train s'arrêtait à Mourmelon le Petit. Je suis arrivée gaie comme j'étais partie. Nous irons tout à l'heure à notre batterie. En ce moment, je suis parmi l'infanterie. Il siffle des obus dans le ciel gris du nord. Personne, cependant, n'envisage la mort. Et nous vivrons ainsi sur les premières lignes. J'y chanterai tes bras comme l'école des cygnes. J'y chanterai tes seins d'une déesse digne. Le lilas va fleurir. Je chanterai tes yeux où danse tout un cœur d'angelot gracieux. Le lilas va fleurir, ô printemps sérieux. Mon cœur flambe pour toi comme une cathédrale et de l'immense amour sonne la générale. Pauvre cœur, pauvre amour, daigne écouter le râle qui monte de ma vie à ta grande beauté. Je t'envoie un obus plein de fidélité et que t'atteigne, ô loup, mon baiser éclaté. Je résiste pas à vous lire encore une ou deux strophes. Cette boue est atroce au chemin détrempé. Les yeux des fantassins ont des lueurs navrantes. Nous n'irons plus au bois. Les lauriers sont coupés. Les amants vont mourir et mentent les amantes. J'entends le vent gémir dans les sombres sapins, puis je m'enterrerai dans la mélancolie. Ô Malou, tes grands yeux étaient mes seuls copains. N'ai-je pas tout perdu puisque mon loup m'oublie? Ce va-et-vient entre la description et cet amour, la description, il est magnifique.
Il arrive à faire la synthèse, en fait, de toutes ses impressions, de ce qu'il perçoit de l'extérieur, de ce qu'il sent. Il voit très bien ce qui va se passer. Et il sent très bien aussi tout ce qui se passe, alors qu'il vient juste d'arriver.
Et j'ai l'impression qu'il sentirait moins bien sans elle.
Oui,
C'est l'impression que j'ai eue pendant... Alors que cette femme ne l'aime pas, ne l'aimera jamais. Alors qu'il sait que c'est sans espoir, quand même, elle est indispensable, elle est essentielle à son écriture, elle est...
Oui, parce que d'abord, c'est parce qu'il a quelqu'un qui parlait. C'est aussi parce que ce n'est plus tellement la femme de chair qui est la destinatrice du poème. Mais c'est la femme de poésie, c'est celle qui a été bâtie par la poésie, par les lettres, par l'écriture, par la parole poétique depuis presque le début. Donc qui est une entité qui tient à la fois de la femme réelle et de la femme imaginée, fantasmée, de la muse.
Et c'est ça qui est magnifique. Cette loup au milieu du champ de bataille, cette loup qui est là, imaginaire, inventée, lointaine, distante. Vous voyez,
justement, lui écrire, c'est réduire la distance, c'est la rendre présente. On n'est pas anonyme quand on écrit à une femme, qui plus est une femme qu'on a aimée.
L'étoile nommée loup est aussi belle, aussi voluptueuse qu'une jolie fille vicieuse. Elle est assise dans un météore, agencé comme une automobile de luxe. Autour d'elle se tiennent les autres étoiles, ses amies. Autour de l'automobile stellaire s'étend l'infini éthéré. Les planètes rutilantes se montrent tour à tour comme des déesses calipiges sur l'horizon. La voie lactée monte comme une poussière derrière le météore automobile. Des guirlandes d'astres décorent l'infini. Le météore automobile, luxueux et architectural comme un palais, est monté sur un bolide énorme qui tonne à travers les cieux qu'il sillonne d'éclairs versicolores et durables comme de merveilleux feux de Bengale et doux comme des baisers éternels et des rayons de soleil ombrage ainsi de beaux arbres printaniers, la route diaphane. Animé comme les oiseaux en plaine mouvante, comme un régiment de fantassins nomades. Étoile loup, beau sein de neige rose, petit nichon exquis de la douce nuit, clitoris délectable de la brise embaumée d'avant l'aube. Les autres astres sont ridicules et sont égouffons. Ils jouent pour toi des comédies fantasmagoriques. Ils font les fous pour que l'étoile nommée loup ne s'embête pas, et parfois les nuits sont mortelles. L'étoile nommée loup traverse des prairies d'asphodèles et des fantômes infidèles pleuvent dans les abîmes autour d'elle. Mais cette nuit est si belle, je ne vois que l'étoile que j'aime. Elle est la splendeur du firmament et je ne vois qu'elle. Elle est un petit trou charmant aux fesses des nuages. de l'étoile d'amour aux nuits durent toujours ainsi. Mais voici les gerbes des obus en déroute qui me voilent mon étoile. Je baisse les yeux vers les ténèbres de ma forêt et mon intelligence amoureuse devient oiseau pour aller revoir plus haut.
Apollinaire, un poète engagé dans la guerre, c'est dans l'heure des rêveurs, jusqu'à 21h sur France Inter.
Est-ce qu'il faut dire, Laurence Campa, c'est qu'il ne va jamais cesser d'écrire. C'est-à-dire que, où qu'il soit à la guerre, il va écrire chaque jour. Il va faire de la guerre un matériel poétique et il va travailler, il va écrire tous les jours.
Oui, mais c'est sa vie. C'est sa vie. La guerre devient sa vie. L'écriture, de toute façon, la poésie, c'est sa vie. Il dit à un moment sur le mode humoristique, « Je ne déteste pas que l'amour me fasse souffrir, à condition que ça ne dure pas trop longtemps. » Il est bien conscient aussi de ce qu'il en faisait, du fait qu'il ait effectivement besoin, non pas besoin de cet amour, mais de cet état, de don, d'intensité.
Parce que c'est comme si on voyait le poète au travail, d'une certaine manière. Et quand je dis le poète au travail, c'est comment ça fonctionne un poète ? Quand on sait que cette femme ne l'aime pas, ne viendra pas.
Oui, mais elle le lit, elle l'écoute quand même. Donc ça ne tombe pas dans le vide. C'est pas un monologue. Non. Donc l'essentiel est sauvé. Et surtout, il a besoin qu'elle garde les lettres. Parce que ce qu'il a en tête aussi, c'est que peut-être qu'il en fera quelque chose, il lui dit à un moment, il a ce projet-là. Il a compris aussi que cet amour qui passe par la poésie, qui passe par l'écriture, a une originalité, une saveur, une couleur particulière, et qu'il en fera un livre. Il n'est pas totalement désintéressé. Il lui envoie parce qu'il sait qu'elle les garde, il a suffisamment confiance en elle pour savoir qu'elle les garde, et que donc elle est en train d'accumuler finalement une œuvre qui est en train de se faire. Tant que le lien est là, tant qu'elle ne l'ignore pas complètement, il y a quelque chose de vivant qui existe toujours.
Joli, bizarre enfant, chérie. Je vois tes doux yeux langoureux mourir peu à peu comme un train qui entre en gare. Je vois tes seins, tes petits seins au bout de rose, comme ces perles de Formose que j'ai vendues à Nice avant de partir pour Nîmes. Je vois ta démarche rythmée de Salomé, plus capricieuse que celle de la ballerine qui fait couper la tête au Baptiste. Joli, bizarre enfant, chérie. Je sens ta pâle et douce odeur de violette. Je sens la presque imperceptible odeur de muguet de tes aisselles. Je sens l'odeur de fleurs de marronnier que le mystère de tes jambes répand au moment de la volupté. Joli, bizarre enfant, chérie. Je goûte ta bouche sorbée à la rose. Je la goûte doucement, comme un calife attendant avec mépris les croisés. Je goûte ton haleine plus exquise que la fumée tendre et bleue de l'écorce du bouleau ou d'une cigarette de Nestor Giannaclis, ou cette fumée sacrée, si bleue et qu'on ne nomme pas. Joli bizarre enfant chéri. J'entends ta voix qui me rappelle un concert de bois, hautbois, flûte, clarinette, cors anglais, lointain concert varié à l'infini. Joli, bizarre, enfant chéri. Ainsi les cinq sens concourent à te créer devant moi, bien que tu sois absente et si lointaine. Ô prestigieuse, ô ma chérie miraculeuse, mes cinq sens te photographient en couleur.
Ce n'est pas facile du tout de parler après Trintignant. C'est magnifique la façon dont il dit ses poèmes. Je l'avais vu au théâtre il y a quelques années. Et c'était formidable. Enfin, je reprends.
Apollinaire n'a jamais cessé d'écrire à la guerre. Il a d'abord été artilleur, donc pas directement exposé, comme peuvent l'être les fantassins qui tiennent la ligne de feu. Mais en juin 1915, son régiment se déplace et là, il s'enfonce dans la guerre et il se retrouve dans un endroit lunaire où les conditions de vie deviennent vraiment précaires et où il n'y a plus de différence justement entre artilleur et fantassin. Et c'est là qu'il écrit « Casse d'Armon », un recueil de poèmes écrits sur le front face à l'ennemi, tiré à 25 exemplaires qu'il polygraphie à l'aide du matériel d'impression militaire. « Casse d'Armon », c'est le nom de la voiture « Caisson » qui transporte les effets des artilleurs. La guerre est devenue la matière de sa poésie.
Ce matériel d'impression militaire se trouve à l'échelon. L'échelon, c'est une sorte d'intendance. Et il se trouve qu'à un moment, il est brigadier à l'échelon. Donc on se sert de ce matériel pour imprimer des ordres, pour garder des traces, etc. Les autorités militaires permettaient aussi aux soldats dans beaucoup de régiments de faire un petit journal de tranchées du régiment. Donc ça servait aussi à ça, qui est une sorte de soupape de sécurité, si je puis dire, pour le moral des troupes, où il y avait des blagues, des nouvelles, des dessins, etc. Donc évidemment, il a l'idée de se servir de ça pour publier, en 25 exemplaires, pour éditer et publier donc, des poèmes écrits sur le front, qui sont calligraphiés par deux de ses camarades, en fait. Et non seulement c'est calligraphié par les amis, mais aussi des effets typographiques. Par exemple, le poème 1915 est inspiré en fait par les graffitis que les soldats inscrivaient dans la craie des tranchées. Donc, il se saisit immédiatement de la réalité de la guerre, que ce soit le vocabulaire, l'aspect visuel, plastique, émotif, sensuel, au sens des cinq sens, pour en faire matière de sa poésie.
Mais c'est que sa façon d'être au monde.
Oui, exactement.
Mais il a décrit les horreurs de la guerre.
Décrire n'est peut-être pas le mot, justement. Au sens où il n'y a pas de description longue. En revanche, il les fait sentir. Il les fait sentir très, très, de façon très, très fulgurante, très impressionnante. Dans la nuit d'avril 1915, qui est le dernier poème de Casse d'Armon, justement, il y a des images qui sont terrifiantes, en fait. Quand il dit « Le printemps tout mouillé, la veilleuse l'attaque, il pleut, mon âme, il pleut, mais il pleut des yeux morts. » On peut le prendre au pied de la lettre. Quand les soldats étaient complètement, justement, vaporisés, anéantis, par les obus, ils pouvaient retomber sur les survivants toutes sortes de morceaux et de fragments de corps, en fait. Donc, ça rappelle « il pleut bergère », petite comptine. Mais la distance, l'ironie, qui passe par le décalage entre le souvenir du rythme de cette chanson légère, enfantine, et ce qui se passe vraiment, qu'il pleuve ou non, des yeux morts, peu importe, c'est l'image. Est absolument terrifiante et glaçante. Donc il n'y a pas besoin d'une grande description pour comprendre justement ce qui se passe. De même que dans Mourmelon le Grand, quand il dit « les yeux des fantassins ont des lueurs navrantes », si on comprend le mot « navrante » comme dans les romans de chevalerie, c'est-à-dire vraiment blessé à mort, c'est simplement cette lueur dans le regard des fantassins qui ne disent rien, qui ne regardent même pas le poète, mais qui sont... qui reviennent de l'horreur suffit à glacer le sang.
Est-ce que vous pouvez m'en lire un de Casse d'Armon ?
En fait, c'est devenu une section du recueil Calligramme publié en 1918. Il y a des poèmes de toutes sortes, il y a des calligrammes justement, il y a des poèmes très courts. Il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle « Les soupirs du servant de Dakar ». Parce qu'en fait, Apollinaire se trouve pas loin de troupes coloniales. Et donc, il y a des artilleurs de l'artillerie coloniale qui viennent du Sénégal. Et ce que je trouve très intéressant et très touchant, c'est que contrairement à ce qui se pratique beaucoup à l'époque, c'est-à-dire une poésie un peu paternaliste, Apollinaire, lui, qui a collectionné de l'art nègre, qui est lui-même un déraciné, au fond, comprend tout de suite comment le servant de Dakar, alors un servant c'est un artilleur qui est au service d'une pièce d'artillerie, donc qui aide par exemple à donner les munitions, qui charge la pièce, voilà, donc c'est un simple soldat, il comprend tout de suite que ce servant de Dakar, enfin ce servant sénégalais en tout cas, pense à sa maison, pense à son pays, et aussi qui comprend la nature profondément humaine de la violence. Parce que dans ce poème, la vision de l'Afrique n'est pas du tout idyllique. Il y a aussi de la violence, il y a aussi la violence du colonisateur, mais la violence entre les tribus, le meurtre, la sorcellerie, le viol, etc. Donc il y a quelque chose d'à la fois extrêmement délicat et d'extrêmement archaïque, en fait. Parfaitement singulier, et pour l'époque, et même dans la poésie française. Les soupirs du servant de Dakar. C'est dans la cagna en rondin voilée d'osier, auprès des canons gris tournés vers le nord, que je songe au village africain où l'on dansait, où l'on chantait, où l'on faisait l'amour, et de longs discours nobles et joyeux. Je revois mon père qui se battit contre les achantis au service des Anglais. Je revois ma sœur au rire en folie, au sein dur comme des obus. Et je revois ma mère, la sorcière, qui seule du village méprisait le sel, pilait le millet dans un mortier. Je me souviens du si délicat, si inquiétant fétiche dans l'arbre et du double fétiche de la fécondité. Plus tard, une tête coupée au bord d'un marécage, ô pâleur de mon ennemi. C'était une tête d'argent, et dans le marais, c'était la lune qui luisait. C'était donc une tête d'argent. Là-haut, c'était la lune qui dansait. C'était donc une tête d'argent. Et moi, dans l'antre, j'étais invisible. C'était donc une tête de nègre, dans la nuit profonde. Similitude, pâleur. Et ma sœur suivit plus tard un tirailleur, mort à Arras. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est le servant qui prend la parole. On ne parle pas pour lui, d'une certaine manière. Il y a un vaisseau qui emporte ma bien-aimée. Il y a dans le ciel six saucisses, et la nuit venant, on dirait des asticots dont naîtraient les étoiles. Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour. Il y a mille petits sapins brisés par les éclats d'obus autour de moi. Il y a que je languis après une lettre qui tarde. Il y a dans mon porte-carte plusieurs photos de mon amour. Il y a les prisonniers qui passent, la mine inquiète. Il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces. Il y a dressé comme un lys le buste de mon amour. Il y a un capitaine qui attend avec anxiété les communications de la TSF sur l'Atlantique. Il y a à minuit des soldats qui scient des planches pour les cercueils. Il y a des femmes qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico. Il y a un cimetière plein de croix à 5 kilomètres. Il y a des croix partout, de ci, de là. Il y a des figues de barbarie sur ces cactus en Algérie. Il y a les longues mains souples de mon amour. Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre. Il y a des hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales. Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront. Car on a poussé très loin, durant cette guerre, l'art de l'invisibilité.
Je me suis posé beaucoup de questions sur cette dernière phrase, je vous avoue.
Parce qu'ils sont bleus horizon, donc ils doivent se confondre avec l'horizon. Mais c'est une manière aussi, sans doute, de dire la mort sans la dire tout à fait, c'est-à-dire qu'on disparaît. Et il y a sans doute beaucoup d'ironie dans ce dernier vers. L'art de l'invisibilité, c'est l'art de faire disparaître les hommes, c'est semblable.
De l'ironie et de la critique alors?
Oui, de l'ironie, de la critique, mais qui ne se dit pas ouvertement, qui est d'autant plus sans doute profonde qu'elle n'est pas directe.
J'avais un ami, j'avais cru. Il a dû filer, il a dû la nuit est venue, venue naître, venue mettre en place son froid. Dans la galerie, moi sans lui, je n'ai plus le cœur à la guerre. Moi sans lui, sans lui, l'ennemi se tait, il se terre comme il se retranche. Il pense, j'avais un ami, j'avais cru, il a dû filer, il a dû, dans la galerie, moi sans lui, je n'ai plus le cœur. À la guerre, moi sans lui, sans lui,
Loup, il y aura Madeleine, et justement ce poème Ilia, c'est à Madeleine qu'il est dédié. Madeleine, Apollinaire l'a rencontrée dans un train, lors d'une permission, et c'est un amour partagé cette fois. Elle habite en Algérie, il ne la connaît pas, il n'a que quelques photos d'elle, il rêve sur ses images, il n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir la rejoindre à Oran, et après plusieurs mois d'attente, il partira la retrouver. Mais on ne sait pas bien ce qui s'est passé. À son retour, rien ne sera plus comme avant. Certainement le choc entre la douceur d'Oran et l'horreur de la guerre, certainement aussi une part de déception. Madeleine n'était pas celle qu'il avait rêvée. Quand il retourne au front, Apollinaire n'a plus de femme à inventer. Fatigué, il cédera à la marée montante de la guerre. Laurence Campa.
Le régiment d'Apollinaire n'arrête pas de se déplacer, sans qu'il sache très bien où ils vont, pourquoi. Il a l'impression d'être un bohémien en voyage, ou d'être un pion qu'on déplace sur un échiquier dont il ne maîtrise absolument pas les règles. Et donc, il reprend une vie d'errance, une vie difficile, jusqu'au moment où on les envoie en contrebas du chemin des dames, dans un secteur épouvantable qui n'est pratiquement pas organisé, donc où les tranchées sont très peu profondes, où ils sont très exposés, où ils sont vraiment très très proches de l'ennemi, au bois des buttes. C'est là qu'il reçoit son avis de naturalisation.
Alors il devient français.
Donc il devient français. Et puis un jour de mars 1916, le 17 pour être précis, il est en train de lire le Mercure de France, tout a l'air calme, personne ne donne l'alerte. Quand un bombardement se produit à très peu de distance d'eux, alors ce qui est très étonnant, c'est que les soldats qui ont l'habitude de la guerre entendent les bruits, savent si les obus sont pour eux ou pas, s'ils passent plus loin ou s'ils ils vont éclater. Et là, c'est comme si toute la troupe, finalement, avait une forme de relâchement ou de lâcher prise, plutôt. Il y a moins de la désinvolture ou de l'inconscience que...
La fatigue.
Une forme de fatigue. Fatigue au sens fort du terme, quoi. De lassitude et de fatalisme, en fait. À quoi bon, de toute façon, advienne que pourra. Donc personne n'entend rien. Le bombardement éclate et donc un éclat d'obus traverse l'espace et vient le percuter au casque, à la tempe droite. Mais c'est comme si finalement lui-même avait, même si cette interprétation peut paraître un petit peu romantique, on peut dire que ce défaut d'attention causée par la fatigue, justement, par la tension permanente, mais aussi peut-être cette difficulté qu'il a eue pendant entre le mois de janvier et le mois de mars à écrire, où il écrit au fond, il écrit très très peu, il écrit un grand poème, il est très content parce qu'il se remet un peu, il a l'impression d'être à nouveau lui-même, mais son inspiration se tarit, son amour se délite, et c'est donc comme s'il n'avait plus de talisman, comme si plus rien ne le protégeait, et comme si il se révélait soudain dans toute sa nudité, toute sa fragilité, et se trouvait donc
comme si
vulnérable.
Et comme si la guerre avait gagné sur le poète.
Et la guerre gagne, la guerre gagne.
Est-ce que vous savez quel est son dernier poème écrit sur le front ?
C'est Du coton dans les oreilles, qui est son plus grand poème du moment, qui est un poème calligrammatique, qui, comme les précédents, colle justement des phrases, des bribes de conversation, évoque aussi des soldats perdus sous la pluie, aveuglés par les gaz de combat et qui attendent la mort entre les lignes dans le No Man's Land. C'est un poème qui mêle à la fois une forme d'humour, de l'ironie, et aussi qui est très déchirant, parce que c'est vraiment la souffrance, une forme de souffrance nue, qui s'exprime là dans une forme extrêmement moderne, qui mêle le vers régulier au calligramme. Ici, la musique militaire joue quelque chose, et chacun se souvient d'une joue rose, parce que même les airs entraînants ont quelque chose de déchirant quand on les entend à la guerre. Écoute s'il pleut, écoute s'il pleut. Puis écoutez tomber la pluie si tendre et si douce. Soldats aveugles, perdus parmi les chevaux de frise sous la lune liquide des Flandres à l'agonie, sous la pluie fine, la pluie si tendre et si douce. Confondez-vous avec l'horizon, beaux êtres invisibles, sous la pluie fine. La pluie si tendre, la pluie si douce. Et ce qui est très intéressant, et ce qui est très touchant, c'est que lui-même, en écoutant la musique militaire qui joue des airs entraînants, il a pu peut-être ressentir une forme d'enthousiasme ou d'allant ou d'élan. Et là, avec le recul et les conditions de vie, la perte de l'amour et la difficulté de vivre dans ce danger permanent, dans cette menace permanente, lui permettent de dire en quelque chose de déchirant quand on les entend à la guerre. Mmh. Et puis il compatit avec ses soldats perdus sous la pluie dans le No Man's Land. Cette pluie qui est très ambivalente parce que quand il y a des gaz de combat, on espère que le vent va tourner ou que la pluie va justement les dissoudre. La pluie tombe, mais les soldats sont déjà aveugles à l'agonie, c'est trop tard. Donc il y a quelque chose d'irrémédiable, en fait. D'irrémédiable et au sens premier, déchirant. La guerre a gagné. Il meurt 2 jours avant l'armistice. Donc il ne connaîtra pas la paix pour laquelle... La victoire et la paix pour laquelle il s'est battu, pour laquelle il s'est engagé.
Alors il y a une délicieuse histoire que vous racontez à la fin de votre biographie, à son enterrement. Tous ses amis sont là,
tout le monde vient, tout le monde est là.
Il
y a beaucoup de monde, mais il faut aller du boulevard Saint-Germain, qui est dans le 6e arrondissement, jusqu'au Père Lachaise. Il faut traverser tout Paris, le 13, donc 2 jours après l'armistice, dans une foule qui est à la fois une foule en liesse parce qu'elle est soulagée, et une foule endeuillée parce qu'il y a d'autres corbières, forcément, et que dans la foule, il y a aussi des veuves, des mutilés, des orphelins, des soldats qui sont revenus du front. Tous les gens sont dans la rue pour célébrer la fin de la guerre.
Et les corbillards comme ça, Carence.
Il n'y a forcément pas que le corbillard d'Apollinaire, c'est évident.
Je vous lis ce que Laurence Campa a écrit dans l'épilogue de sa biographie sur Apollinaire. Quand Sandrars arrive au Père Lachaise, la cérémonie était terminée. Les invités dispersés, les fleurs pillées par les marchands à la sauvette, la tombe perdue dans l'alignement monotone des fosses fraîchement creusées, il s'apprêtait à partir quand il vit une étrange motte de terre. « Regardez, dit-il à Raymonde et Léger, regardez, c'est prodigieux. On dirait la tête d'Apollinaire.
La motte a exactement la forme de la tête d'Apollinaire et le gazon est planté comme les cheveux de son vivant autour de la cicatrice de sa trépanation. Au sortir du cimetière, Sandrars proféra « C'était bien lui, nous l'avons vu. Apollinaire n'est pas mort. » Bientôt, il va se manifester.
Ça, c'est la version de Sandrars. D'autres, ensuite, après avoir raconté que le ciel s'est brusquement obscurci, quand ce jour-là, on a enterré Apollinaire, imagineront, croiront le voir plus tard réapparaître. Et même Aragon, qui est pourtant déjà très critique, mais qui sera aussi un continuateur d'Apollinaire, ça très, très certainement, croira le voir dans l'eau du Rhin parce qu'il a lu Alcool. Et donc, c'est le début de la vie posthume, et la gloire posthume d'Apollinaire.
Et la gloire posthume, c'est ces mots de Sandrars disant « Apollinaire se manifeste toujours ».
Oui, le mot « se manifester » est intéressant parce que ça a quelque chose de divin. Un petit peu miraculeux.
Et on peut dire que c'est vrai, qu'il se manifeste toujours, parce que Alcool est un des recueils de poésie les plus lus et les plus vendus.
En France, en tout cas, oui. Et puis, il est encore vivant, puisque des comédiens lisent ses textes, mettent en scène ses poèmes. Il est lu, il est interprété. Et que finalement, au fil du temps, il prend de plus en plus de place et d'importance. Et depuis que l'année dernière, il est en plus tombé, comme on dit, dans le domaine public, maintenant tout le monde peut le publier sur Internet. Donc il est partout, sur les écrans de nos téléphones, sur les sites, à la radio.
Il avait la voix courte comme essoufflée. Ses yeux, ses doigts semblaient ne toucher que des choses exquises et légères. Je ne sais pas pourquoi, je l'imagine toujours en train de dérouler le fil de quelque cerf-volant. Il savait que l'ange de la poésie boite et louche et qu'il en tire ses grâces. Son souffle givrait les vitres. Il n'avait qu'à tâcher une feuille, la plier et la déplier pour épanouir les terribles dentelles du rêve. Je ne veux apporter ici qu'un hommage à la grâce faite homme, un signe de tendresse à cet anarchiste aristocrate, un salut à cette rose des vents. Guillaume Apollinaire fut le troubadour du grand tournoi où Matisse, Picasso, Braque, Derain, Quiricot dressent leurs statures gigantesques, leurs poitrines héroïques et leurs armoiries.
C'est donc Jean Cocteau qui conclut cette série d'émissions sur Apollinaire. Merci à Laurence Campa et à Philippe Pijard. Sur le site de l'émission, vous trouverez les références des livres de Laurence Campa et bien d'autres références encore. Au montage, c'était Claire Destacan, Martine Abbat et c'est Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission. Voilà, c'est fini pour ce soir et pour Apollinaire. La semaine prochaine, Kim de Kipling avec Mathias Sénard. Ne loupez pas ça. Alors à vendredi prochain, 20h, l'heure des rêveurs.